Chapitre 7. La déesse au sein nu. On ne peut pas se priver du rêve. André Chédid. On court toujours après l'amour. Louis Chédid. Qui de nous deux inspire l'autre? Qui de nous deux speed l'autre? Mathieu Chédid. Lorsque Charlie a montré le visage au serpent à Claire sur le Zodiac, ils ont échangé un regard entendu. « Vous savez ce que représente ce visage ? » ai-je demandé. « On dirait que ça vous rappelle quelque chose. »« Oui, on peut dire ça. On a une amie commune, Claire et moi, qui pourrait nous confirmer immédiatement si ce que nous croyons y voir est vrai. Et vous y voyez quoi ? As-tu déjà entendu parler du mythe de Lilith ? »
Ça me dit vaguement quelque chose, en effet. C'est la première femme créée par Dieu avant Ève, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça. Bien qu'elle soit nommée ainsi dans la Kabbale, Lilith apparaît sous une forme ou une autre à peu près partout autour du globe, dans les religions les plus anciennes. Elle a été l'amante de Samaël, l'ange déchu qui a tenté Ève sous les traits d'un serpent. Et c'est pourquoi elle est souvent représentée comme sur ses pièces.
Ok, je te suis.
Attends, tu veux dire que la déesse au serpent qu'on voit en Crète est aussi un avatar de Lilith ?
Oui, je le pense.
Elle en a tous les attributs. L'érotisme avec ses seins nus jaillissant de sa robe, la puissance exprimée par sa posture et son visage, la sagesse symbolisée par les serpents.
Le serpent symbolise la sagesse ?
Oui, depuis toujours. Et dans toutes les civilisations. C'est l'Église catholique qui en a fait un animal méprisable et mauvais. L'incarnation du diable qui a fait chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. Mais c'est oublié que l'un des nombreux noms de Samaël, le serpent séducteur d'Ève et amant de Lilith, était aussi Lucifer, celui qui apporte la lumière.
Quand même, je n'ai rien contre les serpents, mais de là en avoir une image positive,
pourtant, au quotidien, tout le monde en connaît une image positive, tellement familière que plus personne n'y prête attention.
Ah bon ? Je ne vois pas laquelle.
Le caducé.
Le ca... Ah oui ! Oui, c'est vrai. Il y a un serpent dessus.
Qui représente le savoir, la sagesse, le bien-être.
Tu vois ?
Tu as raison. Je n'avais pas fait le rapprochement.
Esculape, le dieu de la médecine, est le fils d'Apollon, dont le serpent est l'attribut.
Il existe une autre forme de caducée, celui d'Hermès, autour duquel s'enroulent deux serpents.
Celui-là, on peut le voir à la tribune de l'Assemblée nationale.
Oui, mais là, c'est peut-être simplement parce que l'hémicycle ressemble souvent à une fosse aux serpents en train de s'entre-dévorer.
Ça pourrait être ça, c'est vrai,
a dit Charlie en riant.
Mais en l'occurrence, il s'agit simplement de représenter l'éloquence.
Le serpent, avec son cousin mythique le dragon, est l'un des rares symboles communs à toutes les civilisations autour de la planète.
Comme Lilith, donc.
Tu piges vite, toi, m'a dit Claire, avec un grand sourire. Tu es décidément plein de ressources.
Sa remarque à double sens m'a envoyé une onde de chaleur dans le bas-ventre.
Heureusement que je portais toujours ma combi. Ça se voyait moins.
Oui, a continué Charlie, qui n'a pas semblé remarquer quoi que ce soit.
Lilith et le serpent sont présents dans les croyances les plus anciennes, partout sur Terre. La plupart du temps, le serpent représente la sagesse ou la puissance, sous une forme ou sous une autre. Comme chez les aborigènes d'Australie, les Indiens d'Amérique, les bouddhistes, les hindouistes, les Hébreux au moment où Moïse traverse le désert, les Égyptiens de l'époque des pharaons.
Tiens, c'est vrai que leur coiffe ressemble à
un cobra.
Tout à fait.
Au Ophiophagus Anna, a dit Claire en regardant au loin.
Quoi ?
Non, rien. Un souvenir.
En Afrique,
a enchaîné Charlie, le serpent représente l'immortalité et la jeunesse éternelle. Sans doute parce qu'il mue, tout simplement. Et pour tous les biologistes, deux serpents entortillés, ça leur fait immédiatement penser à l'ADN. Le secret de la vie, pas moins, même si là, il ne s'agit que d'une coïncidence, bien sûr.
Méfie-toi de Charlie quand il parle de coïncidence, a glissé Claire en souriant.
Intéressant tout ça, ai-je repris. Bon, on en fait quoi de ces pièces?
On ne va quand même pas se comporter comme des pillards.
Ça, c'est certain. Si Maria apprend qu'on a ramené ces pièces pour les garder, ou pire, pour les offrir au British Museum,
Charlie a imité Maria déchaînée, comme lorsqu'elle insultait les Anglais en zézayant.
« Je vais vous arracher les yeux, posté malaka. Je vous sasserai jusqu'au bout du monde. »
Nous avons éclaté de rire.
Je l'appellerai ce soir ou demain pour qu'elle m'explique la marche à suivre.
Ça ne nous empêche pas de revenir par ici pour essayer d'en trouver d'autres.
Au contraire même, il vaut mieux que ce soit nous plutôt que des plongeurs moins scrupuleux. On a eu un coup de bol phénoménal de tomber là-dessus les premiers.
C'est grâce au poulpe balafré.
Le poulpe balafré, dit Claire.
On dirait un pseudo de truand dans un polar.
Scarface Octopus, tada!
Scarleg, plutôt. Il avait sa cicatrice à la patte, pas au visage.
Scarleg, nous te remercions pour ce magnifique présent.
C'est vrai, je crois que je vais arrêter d'en manger, même si j'adore ça.
Par contre, je te préviens, moi, je continue à manger du poisson.
Nous sommes partis d'un nouvel éclat de rire.
Nous avions à bord deux autres blocs de nitrox pour pouvoir enchaîner une plongée supplémentaire sans repasser par le club. Cependant, il était plus sage de laisser passer une heure ou deux avant de recommencer.
Charlie a remis le moteur du Zod en route et nous nous sommes dirigés vers Neakameni. Nous avons jeté l'ancre à quelques dizaines de mètres au large de la petite baie, là où la mer chargée en fer vire au vert jaune. Nous avons chaussé des sandales en plastique et plongé au milieu des bulles de gaz carbonique pour nager jusqu'à la rive dans l'eau surchauffée.
Cerise sur le gâteau, aucun des bateaux à touristes n'était à portée de vue à cette heure-ci.
L'îlot était à nous.
« Ça veut dire quoi, Neakameni ? » ai-je demandé.
« La nouvelle brûlée », ont répondu en même temps Claire et Charlie.
Profitant que nous étions seuls, nous sommes allés nous balader au milieu des cratères et des fumerolles. À certains endroits, la terre crachait sporadiquement par de petits trous des projections de soufre qui avaient fini par complètement recouvrir le sol d'un tapis cristallisé jaune vif. Nous avons aussi vu quelques failles inquiétantes où il valait mieux ne pas déraper.
« Si Santorin est bien l'Atlantide, a dit Claire, d'après Platon, c'est par ici que devait se trouver le temple de Poséidon, avant que l'île ne soit envahie par la mer, lors de l'éruption qui a presque tout détruit. »
On ne situe pas aussi l'Atlantide dans l'océan Atlantique, ai-je demandé.
On a situé l'Atlantide à peu près partout sur la Terre, a répondu Charlie.
Mais le plus vraisemblable est que Platon se soit inspiré de l'éruption dont parle Claire.
L'Atlantide s'appelle ainsi parce que c'est là qu'est né Atlas, le fils que Poséidon a eu avec Cléito, une humaine qui y vivait.
L'île s'appelait alors Callistée, ce qui veut dire la très belle.
L'océan Atlantique a lui aussi été nommé en référence à Atlas, ce qui n'a rien de surprenant pour le fils du dieu de la mer.
Atlas, ça veut dire le porteur.
On le représente souvent soutenant la terre, Gaïa sur son épaule.
J'ai essayé d'imaginer ce qu'avaient dû être les dernières heures de Callistée avant que la mer ne la submerge. Torse nu, en short, au milieu de ce paysage certes lunaire, mais avec un soleil serein et une mer totalement d'huile, j'avais du mal à visualiser un cataclysme aussi dantesque.
Nous avons continué notre promenade tranquille, perdus dans nos pensées.
Puis, nous sommes remontés sur le Zod et Charlie a mis le cap vers Tirassia, la grande falaise détachée du reste du cratère au nord-ouest de Santorin.
Nous y avons fait notre deuxième plongée.
Cette fois-ci, rien de particulier ne nous est arrivé.
J'étais presque déçu, même si les fonds étaient superbes.
Nous sommes ensuite directement revenus au débarcadère au pied d'Oya. Nous y avons amarré le Zod. Il était équipé d'un gros caisson qui fermait à clé où nous avons rangé notre matériel pour la nuit avant de monter les quelques centaines de marches qui nous conduisaient au village.
À l'approche du sommet, l'escalier passait tout près de la piscine de Cléo.
Mais elle était déserte. La surface, lisse comme un miroir.
Une fois chez nous, nous nous sommes relayés pour nous doucher. nous avions décidé d'aller voir le coucher de soleil en buvant un ou deux verres d'ouzo, puis de dîner dans un petit resto du village. La soirée s'est passée comme prévu, dans une ambiance agréable, si ce n'est qu'une seule idée me taraudait. Claire viendrait-elle me rejoindre dans ma chambre ce soir-là aussi? Lors de notre retour par les petites ruelles, elle est restée tout le temps près de Charlie. Il parlait à voix basse et riait souvent. Ce n'est pas qu'il me tenait à l'écart, j'étais à 1m2. Mais de toute évidence, j'avais disparu de leur horizon. À peine dans la maison, ils m'ont dit bonne nuit et sont partis dans leur chambre. Je les ai entendus rire à nouveau, doucement, puis soupirer de façon non équivoque. Voilà. Si j'avais encore un doute, maintenant j'étais fixé. Merde. Je suis sorti sur la terrasse. La piscine de Cléo était illuminée par 2 projecteurs aquatiques, mais toujours aussi vide. Au loin, les îlots de Kameni étaient à peine visibles dans la nuit. J'ai imaginé Poséidon faisant l'amour avec Cléito. Charlie faisant l'amour avec Cléo. Charlie faisant l'amour avec Claire. Moi faisant l'amour avec Claire. Sibylle, quelque part sur le cause désert, qui me semblait tellement loin de tout, après à peine quelques jours et surtout après ma nuit avec Claire. Ah, Claire. Le balcon où je me trouvais n'était pas entièrement plongé dans le noir. Une lueur diffuse provenait de la fenêtre à ma droite. C'était leur chambre. Je n'ai pas pu m'empêcher. Je voulais revoir le corps de Claire. Juste une seconde. Je me suis approché de la fenêtre, sans bruit. Très progressivement, j'ai incliné la tête pour regarder. À travers le rideau rendu transparent par la lampe de chevet, je l'ai vue. Elle était sur lui, tournée vers la fenêtre. Mais elle ne pouvait pas me voir avec le rideau éclairé de l'intérieur. Son visage exprimait le ravissement qui montait en elle. Elle avait exactement la même expression que la nuit précédente, quand elle avait été sur le point de jouir avec moi. Je me suis demandé, sans doute, très stupidement, si elle fantasmait sur moi à cet instant précis. Elle s'est redressée et a écarté lentement les bras comme un oiseau déplierait ses ailes. Sa poitrine, gonflée de désir, pointait vers moi. Elle semblait habitée d'une énergie infinie. La déesse aux seins nus. Elle a incliné la tête en arrière, vers le plafond. L'orgasme l'a traversée en une longue décharge. J'ai cru que la terre tremblait autour de moi et que le volcan explosait à nouveau, tellement elle était belle.